Bonsoir. Des sources proches du tribunal des paix Lubumbashi-Kamanondo indiquent que le greffier et la secrétaire de cette juridiction se sont enfuis depuis lundi 1er août dernier en emportant les dossiers relatifs au procès de Moïse Katumbi, condamné à 3 ans de prison dans une affaire de spoliation immobilière. La fuite de ces deux fonctionnaires intervient plus d'une semaine après que la juge présidente de ce tribunal ait disparu, après avoir dénoncé des pressions qu'elle affirme avoir subies pour condamner Moïse Katumbi. Comment analyser cette situation? Nous en parlons avec Maître Georges Kapiamba, il est président de l'Association congolaise pour l'accès à la justice à Cage en cible. Bonsoir Maître Georges Kapiamba.
Bonsoir Guy.
Maître Arifin Louko, avocat, chercheur en droits humains et écrivain. Bonsoir Maître Arifin Louko.
Bonsoir Guy, bonsoir à tous.
Et lui va nous rejoindre, c'est Monsieur l'ambassadeur André Alain Atundu, porte-parole de la majorité présidentielle. Bienvenue à tous dans cette émission.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
De nouveau, dans l'affaire Alejandro Toupis et Moïse Katumbi, des sources proches du tribunal de paix Lubumbashi-Kamanondo, nous apprenons que les greffiers et la secrétaire de cette juridiction ont fui depuis lundi dernier en emportant tous les dossiers. Écoutons ces reportages de Jean Gandou.
Certaines sources judiciaires indiquent qu'à part le dossier qui a emporté, deux feuilles du registre du parquet où figuraient les dossiers de l'opposant ont été arrachées. Pour l'heure, le greffier et la secrétaire sont introuvables et injoignables. Difficile de savoir s'ils sont encore à Lubumbashi ou s'ils ont déjà traversé les frontières. En rapport avec ce dossier, les autres greffiers de la même juridiction ont été auditionnés au parquet général près de la cour d'appel de Lubumbashi. Notons que cette situation intervient plus d'une semaine après la disparition de la juge Chantal Ramazani qui a prononcé la condamnation de Moïse Katumbi. Jusqu'à présent, on ne sait toujours pas où elle se trouverait. Toujours en rapport avec cette situation, l'Institut de recherche en droits humains, une ONG locale, a, dans un communiqué publié ce mercredi à Lubumbashi, exigé qu'une enquête fouillée soit diligentée pour établir les responsabilités, notamment au sujet de la disparition ou la fuite de la juge, du greffier et de la secrétaire. Nous n'avons toujours pas encore la réaction des autorités judiciaires à ce sujet. Alors qu'il est, la question qui est sur toutes les lèvres est celle de savoir quelle serait l'implication juridique de la disparition de ce dossier. Lubumbashi, Jean Gandou, Radio Capi.
Toujours au sujet de cette affaire, des arrestations ont été opérées dans les rangs des greffiers auditionnés hier au parquet général près la cour d'appel de Lubumbashi. Ils sont accusés de complicité dans les vols du dossier physique et des destructions méchantes du registre du parquet où figuraient les dossiers de l'opposant Moïse Katumbi. Rappelons que les personnes en cavale ont aussi emporté ce document. Entre-temps, la cour d'appel de Lubumbashi a, dans un communiqué publié ce jeudi, donné d'autres éclaircissements sur la lettre attribuée à la juge Chantal Ramazani en Neikabena pour les détails.
Des sources concordantes parlent de 7 greffiers qui ont été entendus hier par le parquet général près la cour d'appel de Lubumbashi. 3 ont été libérés tard dans la nuit, les autres sont gardés au cachot du parquet de grande instance. C'était à l'issue de longues heures d'audition. Ce jeudi, la cour d'appel vient de publier un deuxième communiqué de presse en rapport avec la juge Chantal Ramazani. D'après ce communiqué, la lettre attribuée à la juge serait écrite depuis le Congo-Brazzaville, expédiée par courrier. Elle a été réceptionnée ce mardi par la cour d'appel. Pour le premier président de cette juridiction, l'authenticité de cette correspondance est donc mise en cause par rapport à la première lettre datée du 25 juillet dernier. Ensuite, il annonce également que les autorités judiciaires sont au courant d'un réseau au service de Moïse Katumbi. Ce réseau s'active à faire disparaître tous les dossiers pénaux qui le concernent en promettant aux acteurs de ces manœuvres un asile extérieur paisible. Le communiqué conclut que toutes ces manœuvres n'ont aucune incidence sur la décision de condamnation de l'incriminé. Par rapport à ces accusations, nous n'avons pas encore la réaction de la partie Moïse Katumbi. De Lubumbashi, Noli Kabena, Radio Okapi.
Maître Georges Kapiamba, je rappelle que vous êtes président de l'Association congolaise pour l'accès à la justice à Cage en cible. Le 25 juillet dernier, donc la semaine dernière, la juge présidente du tribunal de paix Lubumbashi Kamalondo disparaît après avoir dénoncé des pressions à son égard. Et le 1er août, donc lundi dernier, le greffier et la secrétaire de cette juridiction disparaissent avec les dossiers dans l'affaire Moïse Katumbi. Comment vous analysez ces rebondissements dans cette affaire?
Oui, Guy, merci pour m'avoir invité aussi dans cette émission. Je pense que nous nous sommes déjà longuement exprimés sur ces dossiers lors de notre conférence, de deux conférences de presse que la CAJ a organisées à son siège la semaine passée et aussi en début de cette semaine. Nous avons exprimé notre profonde préoccupation face à cette situation qui se déroule depuis un certain temps au tribunal de paix de Lubumbashi, Kamalondo, qui est une situation résultant d'un procès qui est mené contre l'ex-gouverneur de la province du Katanga, Moïse Katumbi, par un sujet grec, Monsieur Stoupis. Nous avons reçu des informations qui ont été vérifiées d'abord par nos membres de la CAJ à Lubumbashi qui font état effectivement de l'existence d'un certain nombre d'interférences qui ont émaillé l'ensemble de la procédure et qui établissent clairement que certaines choses dénoncées par la dite lettre qui est remise, dont l'authenticité est curieusement remise en cause par la Cour d'appel de Lubumbashi, sans être en mesure de présenter la juge et dire à l'opinion où elle se trouverait que ces choses seraient réellement fondées. Donc, voilà pourquoi, depuis tout ce temps, nous nous cessons d'exiger, de demander une enquête indépendante et impartiale qui doit arriver à élucider d'abord les circonstances, les conditions dans lesquelles le procès mené contre Moïse Katumbi s'était-il déroulé et les circonstances ou les raisons qui ont conduit à sa condamnation alors qu'il a été établi par plusieurs faits et éléments que le dit procès n'était pas juste et équitable. Il y a eu beaucoup, beaucoup de problèmes, beaucoup d'irrégularités de procédures qui n'ont pas été jugées comme fondées, alors que le conseil de Moïse Katumbi, qui était présent à l'audience, les avait soulevés. Donc, pour nous, globalement, nous jugeons la situation extrêmement préoccupante parce qu'aujourd'hui on parle aussi des agents du greffe, des secrétaires qui seraient introuvables et nous pensons que la cour d'appel de Lubumbashi, comme le parquet général presse cette cour ayant été mise en cause aussi par la lettre de la présidente Madame Ramazani, ne sont pas à notre avis qualifiés ou indiqués pour mener cette enquête. Il faudrait qu'on trouve une autre structure au sein de laquelle d'ailleurs nous souhaiterons que les organisations des droits de l'homme que nous sommes ainsi que l'USCO puissent aussi y participer.
Maître Georges Kapiamba, dans un point de presse, vous l'avez relevé ici dans votre intervention, dans un point de presse que vous avez organisé hier c'était mardi ici à Kinshasa, vous avez condamné toute instrumentalisation de la justice à des fins politiques dans l'affaire Katumbi. Et cela veut dire que vous confirmez les allégations de Madame la juge présidente à travers cette lettre adressée au ministre de la Justice et dans laquelle elle affirme avoir été forcée à condamner M. Moïse Katumbi.
Oui, nous sommes partis bien évidemment de ce témoignage, de cette dénonciation qui en soi constitue pour nous un témoignage sérieux qui ne peut pas être mise en doute comme ça alors qu'il n'y a jamais eu d'enquête indépendante. Nous avons aussi ajouté, pour corroborer cette position, la lettre de Madame la bâtonnière du barreau de Lubumbashi qui proteste pratiquement contre le fait que il y a eu une démarche de la part des agents de l'ANR qui ont tenté de faire distribuer à travers elle, à tous les avocats de Lubumbashi, un journal, le journal Soft International numéro 1364, qui a publié en intégralité l'ensemble d'éléments relatifs au dossier qui oppose l'ex-gouverneur de Katanga à M. Stoupis. Donc, nous avons dit on ne peut pas justifier le gouvernement, comme les dix services ne peuvent pas justifier l'intérêt qu'ils avaient à faire ou à vouloir faire distribuer ces journaux qui parlent du dossier qui est porté en justice et quelle était la raison pour laquelle une pareille démarche pouvait être menée. On prend une quantité importante des exemplaires du dit journal ici à Kinshasa, On les envoie à Lubumbashi pour essayer à les faire distribuer aux avocats ainsi qu'aux autres habitants de Lubumbashi. Donc, ce sont des éléments qui, mis ensemble, établissent clairement que la procédure elle-même est téléguidée et qu'elle semble être tirée par une ficelle par certaines autorités.
Maître Kapiamba, vous qualifiez les allégations de la juge-présidente à travers cette lettre, vous les qualifiez de témoignages sérieux qui ne peuvent pas être mis en doute. Alors que on remet en cause, n'est-ce pas, l'authenticité de la lettre de Madame la juge-présidente. Vous avez suivi Monsieur le porte-parole du gouvernement, Monsieur Lambert Mende, et qui estime que cette lettre est un faux, étant donné que la juge, est, à son niveau, elle connaissait très très bien la procédure qui doit être utilisée, n'est-ce pas, dans ce genre de démarches. Elle a adressé une lettre au ministre de la Justice, alors que la lettre devait être adressée au président du Conseil supérieur de la magistrature. Et cela veut dire que la lettre ne vient pas de la juge présidente.
Non, mais je crois que toute cette explication n'est pas fondée, monsieur le journaliste. D'abord, il ne revient pas au tiers de pouvoir dire ou clamer tout haut que cette lettre n'est pas authentique à partir du moment où Madame Ramazani n'a jamais elle-même écrit une autre lettre ou ne s'est jamais produite dans une intervention, soit à la télé ou dans une radio, pour remettre cette lettre-là en cause. Donc il n'y a qu'elle-même qui peut, aujourd'hui, si elle est quelque part, il faudrait alors que ceux qui pensent que ce n'est pas elle qui a écrit cette lettre ou qui l'a signée, qu'ils puissent la sortir et puis qu'elle puisse éclairer les gens. Si elle dit que ce n'est pas sa lettre, à ce moment-là, nous pourrons tous nous incliner. Mais à partir du moment où il est difficile aujourd'hui de vérifier autrement ces faits-là, que par une lettre contraire de la part de Madame Ramazani, nous devons quand même respecter l'originalité et l'authenticité de ce qu'elle a repris dans sa dénonciation.
Maître, le premier président de la Cour d'appel de Lubumbashi annonce que les autorités judiciaires sont au courant d'un réseau au service de M. Moïse Katumbi.
Oui, nous constatons là aussi qu'il y a beaucoup de confusion qu'on voudrait entretenir. On ne peut pas, alors qu'on n'a jamais mené une enquête indépendante, impartiale, ou qu'une structure plus ou moins attitrée ne l'ait fait, qu'on puisse se lever un matin et dire que il y aurait un réseau. Mais qui a dit ça? Qui a constaté? Quelle est la décision de justice qui est devenu irrévocable, qui a constaté, qui a identifié ces gens-là? Donc, nous, en tant qu'organisation de défense des droits de l'homme, nous pensons qu'il faut respecter jusqu'à preuve du contraire le point de vue exprimé par Madame Ramazani à travers cette lettre, et que nous exigeons une enquête indépendante, impartiale, pour pouvoir établir si oui ou non cette lettre provient effectivement d'elle.
Merci, maître. Monsieur l'ambassadeur Andegaalien Atundu, porte-parole de la majorité présidentielle, bonsoir.
Bonsoir, monsieur.
Comment vous analysez les rebondissements dans l'affaire Stupis Moïse Katumbi?
De quel rebondissement s'agit-il?
Il s'agit d'abord de la lettre. La semaine dernière, madame la juge présidente a adressé une lettre au ministre de la Justice dans laquelle elle dénonce des pressions à son égard, n'est-ce pas? Elle dit qu'on l'aurait poussé à condamner monsieur Katumbi, et elle a même dit qu'on a extorqué, n'est-ce pas, sa signature. Et lundi dernier, c'est les secrétaires ainsi que les greffiers qui ont fui avec les dossiers Moïse Katumbi. Comment vous analysez ces rebondissements?
Je crois que juridiquement, on peut pas parler de rebondissement, parce que le jugement a été rendu. L'affaire à ce niveau-là est close. Sur le plan judiciaire, il n'y a pas de rebondissement. Le rebondissement, c'est l'appel. C'est ça le rebondissement.
Pourtant, l'appel a été fait,
c'est ça le rebondissement.
L'appel a été fait.
Ceci est une péripétie, n'est-ce pas, dans l'affaire Moïse Katumbi.
Et comment vous analysez ça?
Alors, madame prétend qu'elle a eu des pressions pour condamner monsieur Moïse Katumbi. Mais il lui était logique, et tout à son honneur, de démissionner avant de juger. Logiquement et vraisemblablement. cette lettre.
Et vous pensez que vous pensez que les conditions étaient réunies pour que une telle personne puisse démissionner
dans
des conditions
mais pourquoi
lorsque elle sait qu'elle n'a pas encore toute sa disposition pour sécuriser sa famille et va démissionner alors qu'elle sait que les conséquences pourraient être néfastes, n'est-ce pas, et pour elle-même et pour sa famille.
La démission n'est pas un acte coupable. La démission est un droit. Quand on estime en âme et conscience qu'on ne peut pas agir dans le sens voulu, soit par votre devoir, soit par vos autorités, vous démissionnez. Je vous rappelle que le principe de base de notre droit judiciaire, c'est l'intime conviction du juge. Si le juge a tort ou a raison, a l'intime conviction qu'il ne peut pas rendre ce jugement, mais il n'a même pas d'autre explication à donner. Donc, alors, vous voyez, la lettre déjà, ça c'est un élément qui montre qu'il y a eu plutôt des pressions après le jugement. Alors, qui peut exercer la pression après le jugement? Ce n'est certainement pas sa hiérarchie, encore moins le ministre de la Justice. C'est certainement des mains obscures, intéressées à l'affaire, comme dirait l'autre, vient à qui profite le crime. Donc, je pense qu'il faut traiter l'affaire comme il se doit. C'est une seconde affaire. Dans l'affaire, c'est une autre affaire dans l'affaire Katumbi. La disparition des dossiers physiques et personnels. Lorsqu'on relit le tout, lorsqu'on relit ces deux faits, vraisemblablement, il y a une main qui a intérêt à la disparition de tous les dossiers. Mais je vous
signale. Et là, vous soupçonnez qui?
Je n'ai pas soupçonné. Le magistrat doit mener l'enquête. Mais je dis que celui qui a fait cette opération, c'est une opération absurde sur le plan judiciaire. Parce que M. Katumbi, quand il va porter, interjeter appel, c'est à lui de prouver qu'il a été condamné, qu'il a fait ceci, les documents ne sont pas là. Sera bien obligé de donner les documents.
Alors comment vous expliquez le fait que on remet effectivement en cause l'authenticité de cette lettre? Il y a monsieur les porte-parole du gouvernement qui a remis en cause l'authenticité de la lettre.
À ce niveau, ce sont tous et les affirmations du porte-parole et les affirmations de la juge, ce sont des présomptions, n'est-ce pas? Des allégations. Il nous faut prouver dans un sens comme dans un autre. Et comme qui dirait, quod gratis affirmato, gratis negatur, eh bien, puisque elle a dit qu'elle a fait l'objet des pressions sans autre preuve, eh bien, on peut dire, écoutez, ce sont des faux, on peut donner toutes sortes d'argumentations. Je pense qu'il faut traiter l'affaire en criminel, mais pas en politique. Tout criminologue sait que qui a intérêt? Par où faut-il commencer? En tout cas pas du côté de ses chefs hiérarchiques. Parce que s'il en était ainsi, elle aurait dû écrire avant le jugement, saisir le ministre de la Justice et démissionner. Elle l'a fait après. Qui a intérêt qu'elle dénonce?
Vous connaissez le contexte dans lequel on travaille
Non, je connais le contexte de liberté dans lequel elle a agi.
Et vous pensez qu'elle démissionnerait?
Elle aurait dû démissionner dès lors que son intime conviction est qu'elle a été poussée ou elle a été contrée par les circonstances.
Elle aurait dû
démissionner.
Elle ne serait pas inquiétée?
Pas du tout.
Alors, la justice dénonce les menaces qui ont pesé sur sa personne dans cette affaire et sollicite l'annulation de sa signature sur ses jugements. Vous pensez qu'elle sera entendue?
Pardon?
Elle a dénoncé, n'est-ce pas, les pressions qui ont été exercées à son égard dans cette affaire et sollicite l'annulation de sa signature sur ses jugements. Vous pensez qu'on pourra l'entendre, l'écouter?
Soyons sérieux. En tant que juge, elle sait que toute prétention doit être approuvée avant d'avoir un acte judiciaire pour renverser la chose. Ce n'est pas parce qu'elle prétend qu'elle a été sous pression, que, comme l'a dit Maître, que c'est une preuve irréfutable, non? L'aveu n'est jamais une preuve irréfutable.
Alors, certains
experts... Il y a même des pays où l'aveu n'est pas une preuve.
Monsieur le matadeur, certains experts affirment que dès lors que la juge présidente elle-même remet en cause ses jugements, la Cour de cassation peut aller jusqu'à casser, n'est-ce pas, cette décision et acquitter Monsieur Moïse Katumbi.
Bon, si c'est cela l'objectif de toute l'opération criminelle, judiciaire,
cela est possible, cela est faisable.
Mais le droit, nous sommes dans un état de droit. Lorsque vous contestez votre signature, vous la remettez en cause sur un document important qui a condamné un individu, un citoyen, à 3 ans, eh bien, on ne peut pas biffer d'un coup de bic. Il faut que cela, comme on dit, soit inscrit à faux. Il faut que vous puissiez, qu'on puisse prouver que vous avez été l'objet, et alors la conséquence, c'est cela, et subséquemment, on peut penser à annuler. Quoi qu'il en soit, pour casser un jugement, ce n'est pas nécessaire. La démarche qu'il fait là, ça ressemble à quelqu'un qui voudrait se gratter le menton en passant la main derrière la nuque. Merci. Il suffit que Moïse Katumbi dise « je ne suis pas d'accord, c'est ça l'appel ».
Merci, Maître Ruffin Louko, avocat, chercheur à droits humains et écrivains. Comment vous analysez cette affaire?
Merci Guy pour cette invitation. J'aimerais prendre toute cette affaire comme étant une affaire inexistante. J'aimerais donc prendre cette affaire comme étant une affaire inexistante, une affaire fausse.
Affaire fausse, pourquoi? Oui,
parce que je considère que si elle est vraie, c'est très grave. Si cette affaire est vraie, c'est très grave.
Pourtant, elle est vraie.
Bon, pourtant, elle est vraie, ça c'est pour la presse. Pour la presse, elle est vraie. Pour nous, experts, ou ceci, cela, nous aimerions que nous ayons des évidences. Les évidences doivent être, n'est-ce pas, restituées par une commission indépendante. Hélas, chez nous, au pays, dès qu'on annonce une commission, nous savons que c'est le grand fleuve Congo pour engloutir le dossier.
Et quelles sont ces évidences?
Bon.
La lettre elle-même n'est pas une évidence.
Les évidences, la première
la
évidence.
La fuite de ses fonctionnaires n'est pas une évidence.
La première évidence, c'est que il y a quelqu'un qui s'appelle Moïse Katumbi, contre lequel tout ce qui s'est fait contre lui échoue. Une évidence. Tout ce qu'on a fait contre lui échoue.
C'est-à-dire?
Ça veut dire, il y a eu procès ici, ça échoue. Il y a eu procès là-bas, ça échoue. Il y a eu tentative d'arrestation, ça échoue. Donc ça veut dire, le constat c'est que lui est, en quelque sorte, inaccessible par notre justice. Ça c'est un premier constat. Deuxième constat, c'est que, est-ce que ce sont ceux qui ont initié ces procédures qui sont maladroits et amateurs, ou c'est notre justice qui est incapable? Parce que regarde, là, vous avez entendu un Georges Kapiamba, à Cage, vous entendez Alain Atudu Liogo, porte-parole, et vous entendez moi, un simple expert. Où est le conseil supérieur de la magistrature? Parce qu'il y a quelqu'un de son sien qui se plaint, et d'une manière grave. Où est le CSM? Où sont les syndicats des magistrats, intersyndicales, Sinamag, ceci, cela, les syndicats que nous qualifions à Kinshasa, les syndicats des grades, pour que les gens restent à Kinshasa pour être. Pour nous dire qu'est-ce qui s'est réellement passé. Vous savez, au Congo, le juge du contentieux électoral, donc le juge des conflits politiques, en ce qui concerne les élections ou la légitimité, c'est sur les cours des tribunaux, et en particulier la cour constitutionnelle, les cours des tribunaux à tous les niveaux des échelons. Ça veut dire, si cette partie de la République qu'on appelle le pouvoir judiciaire ne peut pas relever la tête, il n'y a pas d'espoir pour notre pays. C'est vrai, je vais répondre à la population par rapport à la préoccupation de votre correspondant de Lumbashi qui a dit quel est l'essor de la disparition des dossiers judiciaires pénaux.
Voilà.
Il y a déjà des réponses, je vais y répondre. Mais parce que notre justice, notre expérience a déjà résolu quelle est la solution? Qu'est-ce qui va arriver? nous avons la réponse dans l'une de mes publications déjà. L'une de mes publications déjà, en 2006,
vous avez relevé la question de la procédure. Est-ce qu'il y a quelque chose à dire au sujet de la procédure qui a abouti à cette condamnation?
Bon, ça aussi c'est une constante. La constance, c'est que notre justice a autorisé, en particulier, un document du PGR a autorisé Moïse Katoumbi de quitter le territoire pour aller se faire soigner. C'est que son absence au pays est légalement justifiée et judiciairement justifiée. En conséquence, aucun parquet, aucun tribunal ne peut condamner ce monsieur-là par défaut. Parce qu'il est en dehors du territoire pour des raisons de santé. Les juges de Lubumbashi avaient le devoir de répondre à la question de savoir le fait que le greffier est allé à l'adresse indiquée ne l'a pas trouvé, est-ce que ce monsieur-là doit être jugé par défaut? Cette question-là était fondamentale et le juge de Lubumbashi, Dutripé Kabalondo, devrait raconter ça. La loi dit en matière de procédure pénale, ces questions-là sont d'ordre public, les juges devaient examiner cette question.
Et donc sur le plan procédural, les choses n'ont pas été respectées.
Alors, je ne m'hasarderai pas à aller dans les fonds à critiquer ce qui s'est passé. Parce que je sais qu'il y a à boire et à manger, ça part dans tous les sens. Je parle ici en tant qu'expert, je considère tout simplement que non, il y a là des problèmes de droit, parce que vous savez, Guy, nous le disons chaque fois sur ces antennes, l'espoir de notre pays, c'est notre justice. La classe dirigeante, d'où qu'elle vienne, ne nous portera pas l'espoir, parce que nous savons que, dans la recherche d'intérêts particuliers, les seuls qui peuvent répondre aux besoins de la population, de tout le temps, comme on dit, la justice élève une nation, c'est la justice. Et nous devons, chaque fois que celle-ci est touchée, où sont les députés? Où sont les députés? Nous avons vu les députés se mettre debout parce qu'il y a un musicien qui a commis une infraction. Où sont-ils maintenant que la justice tressaillit dans ses entrailles, qu'il y a un problème?
Et donc, vous voulez dire que le mérite de la démarche de la juge présidente c'est le fait d'avoir dénoncé tout haut, ce que tout le monde pensait tout bas?
Bon, nous on les dénonce, ça fait 20 ans. Justice, ça nous concerne. Moi, j'ai déjà écrit 13 livres pour donner ma contribution au fait que notre justice se redresse.
Alors, dis-moi, que
les dysfonctionnements de notre justice, nous les disons chaque jour.
C'est un secret de polichinelle. Dès lors que la juge...
Les chefs de l'État a déjà révoqué 4 fois
voilà,
à masse des magistrats
dès lors que la
pour
juge,
que nous trouvions des solutions.
Dès lors que
à
la juge problème. Présidente affirme que sa signature a été extorquée, et vous pensez que ce jugement peut encore avoir sa valeur?
J'étais dit que j'aimerais considérer que tout ça, c'est faux. Si ces choses-là s'avèrent vraies, il faut que des têtes puissent tomber. Vous savez tout ce que cette lettre... Bon, je ne veux même pas dire que c'est la juge. Vous savez tout ce que cette lettre dénonce? La lettre dénonce même qu'il y a des magistrats qui sont en même temps agents de renseignement. Qui sait ce que ça signifie?
Merci.
Donc ça veut dire tout simplement que si tout ce que cette lettre de la dame dénonce est justifié, il faut absolument qu'une commission parlementaire, Sénat et Assemblée nationale inclus, avec le CCM, puissent dégager les responsabilités.
Merci.
Des sanctions et une sorte de remis-ménage puisse être effectué.
Merci,
pour
maître.
Sauver notre justice.
Maître Kapiamba, il y a une question qui vous est adressée, elle vient de Lubumbashi.
C'est Stéphane Mwamba depuis Lubumbashi. Si Moïse Katoumbi est innocent, pourquoi corrompre les juges Ramazani et le greffier qui se sont volatilisés dans la nature avec le dossier? Cela se justifie par la facilité avec laquelle Madame Ramazani a obtenu le visa et cela porte à croire qu'il existe un réseau au sol de Moïse Katoumbi faisant circuler les valises de billets. En quoi est-il innocent? Un innocent, c'est celui qui affronte la justice par des moyens légaux.
Merci Georges Kapamba.
Oui, merci Guy, mais avant de répondre rapidement à notre compatriote, je voudrais revenir sur deux petites choses. Hein. Je crois que nous devons apprendre aussi à respecter les autres. Comme je l'avais mentionné, à partir du moment où il n'existe pas à ce jour un jugement qui a constaté que les faits repris ou dénoncés par Mme Ramazani dans sa lettre sont faux par une décision de justice, déjà qui a acquis la force de la chose jugée, nous devons respecter cette lettre ainsi que nous réserver pour critiquer son authenticité. Vous savez,
et attendre l'aboutissement des enquêtes.
Il faut attendre l'aboutissement des enquêtes. Nous avons toujours réclamé cette enquête indépendante parce que vous savez, dans la lettre, elle reprend par exemple le fait que le tribunal ait rejeté, n'ait pas tenu compte des effets de la décision de donner acte qui était déjà signifié au tribunal et que les avocats, la défense, avaient déposé sur le banc. Alors qu'en tant que juge tribunal, s'ils avaient travaillé en dehors des pressions ou des interférences, ils savent qu'ils devaient décréter la surséance. Il dit par exemple la question de prescription qui est soulevée dans la lettre. Elle-même revient sur ça pour dire qu'en réalité, on ne veut pas condamner, examiner même ces faits, étant donné que les faits étaient déjà prescrits. Mais parce qu'il y avait cette pression, c'est pour cela qu'ils sont arrivés à ça. Donc il faut qu'on respecte ces choses.
Vous allez répondre à la question de l'auditeur. Vous allez répondre, mais au sujet de ça, vous avez suivi l'ambassadeur André Alain Tundu, et qui estime que c'est une opération absurde.
Non.
Elle dit que Madame la juge devait démissionner avant. Et pourquoi la démission intervient ou la dénonciation intervient après les jugements?
Non, pas du tout, parce que ici il faut considérer que Madame Ramazani est une victime. Elle s'est retrouvée dans des circonstances où elle ne pouvait pas agir autrement si pas exposer sa propre vie. Apparemment, quand vous lisez l'ensemble de sa lettre, c'était ça sa situation. Vous pensez que quelqu'un qui s'est trouvé dans cette situation-là pouvait facilement démissionner sans risquer même de sa vie ou de celle de sa famille?
Alors, après qu'elle ait dénoncé, vous pensez qu'elle est en sécurité?
Oui,
là où elle est pour le moment.
Et puis, elle n'a pas mis longtemps
pour
dénoncer.
Vous pensez qu'elle est en sécurité?
Non, mais apparemment, même les autorités de la cour d'appel de Lubumbashi ne savent pas nous dire là où se trouve Madame Ramazani, et qui veulent dire que la lettre n'est pas authentique, mais ils ne savent pas nous indiquer là où se trouve. Par rapport à la question, je crois que l'auditeur est victime d'une manipulation, parce que nous avons déjà votre correspondant ou votre confrère de Lubumbashi a évoqué un communiqué de presse de la cour d'appel qui allait trop vite en besogne en parlant déjà de l'existence des réseaux, et c'est curieux que cela puisse venir d'une cour d'appel d'une juridiction qui est censée recevoir les éléments d'une enquête du parquet, d'où la cour d'appel de Lubumbashi a-t-elle tiré ces éléments-là. Donc c'est très grave, on sent maintenant que c'est cette cour qui fait déjà, qui essaye de manipuler certaines personnes. Donc Stéphane est tombé aussi dans les travers de cette manipulation. Moi, je pense que nous devons tous nous garder de faire ce genre de commentaires, mais exiger une enquête indépendante, impartiale, pour établir les circonstances dans lesquelles les dossiers, le procès s'est déroulé.
Merci.
Et vérifier si ce que Madame Ramazani a rapporté sont fondés ou non. Un point très.
Merci, maître, monsieur l'ambassadeur André Alain Tundu. Il y a une question qui vous est adressée, elle vient de Manono.
C'est Emmanuel Kobota depuis le territoire de Manon dans la province Tanganyika. Je viens d'encourager particulièrement l'acte qui a été posé par la juge Tarfeké. Elle avait juré d'être juste et honnête dans le jugement. D'après moi, tout ce que la juge a écrit dans sa lettre est vrai, parce qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Vu le nombre d'années que la juge a déjà fait dans sa carrière, et vu le nombre de condamnations qu'elle a déjà faites, la juge n'est pas folle pour quitter son pays. C'est-à-dire, il y a quelque chose qui la pousse de fuir le pays.
Oui, monsieur l'ambassadeur.
Nous avons évidemment l'obligation, nous tous ici, d'éclairer l'opinion plutôt que de justifier nos prétentions. Nous sommes un état de droit. Tous les actes que nous posons, en action ou en réaction, ont une protection juridique quelconque. Et donc, si le juge prétend qu'elle a été l'objet d'une pression, pourquoi elle n'a pas démissionné? La question est fondamentale.
Mais maître, vous avez répondu,
ce n'est pas maître de répondre, c'est au juge d'apprécier.
Il faut vous mettre à la place de la dame. Hein.
Non. Le juge, le tribunal est là pour apprécier les actes posés. Ce n'est pas maître d'apprécier. Il est parti prélance quelque part. Donc ce n'est pas lui. Je me pose la question reste pertinente et posée. Pourquoi a-t-elle attendu la fin du jugement pour écrire au ministre? Pourquoi ne l'a-t-elle pas fait avant? Puisque elle aurait mis sa famille en danger, je suppose que là où elle est, elle a amené l'ensemble de sa famille. Invraisemblable. En réalité, il s'agit de faire un amalgame entre la vérité judiciaire. La condamnation à 3 ans, ça s'appelle une vérité judiciaire, qui a encore la possibilité d'être renversée par un appel, ce qui n'a pas été fait. Et les prétentions d'appel, la vérité judiciaire, ce jugement premier, et les prétentions d'appel que vous devez justifier pour obtenir éventuellement le renversement de ce jugement. Alors, moi, je me dis ceci. Nous avons intérêt à laisser notre justice évoluer sans pression. Sans pression inconsidérée, sans pression politique. Parce que, de toute évidence, il s'agit d'une opération politique qui vise à donner à l'opinion l'impression que M. Moïse Katumbi est l'objet d'harcèlement de la part du pouvoir. Comme si, ayant été ancien gouverneur et prétendant candidat, parce que ce n'est pas parce qu'on se proclame candidat qu'on est candidat, c'est un acte juridique qui le sanctionne, eh bien, le fait de prétendre être candidat le met au-dessus de la loi, comme on l'a démontré ici, chaque fois qu'on veut le toucher, ah ben, il est candidat, il est harcelé. Soyons justes, laissons le juge faire le travail, il y a toute une hiérarchie.
Monsieur l'ambassadeur, vous avez insisté sur le fait que nous devons laisser notre justice évoluer sans pression, et vous avez même relevé la question de l'appel, on sait que l'appel a un effet suspensif, mais comment vous
pas nécessairement.
Comment
il y a des jugements qui s'exécutent.
Oui, mais comment vous réagissez lorsque vous entendez Monsieur le ministre de la Justice ainsi que le porte-parole du gouvernement dire que si Moïse Katumbi remet ses pieds ici, il sera tout de suite arrêté, alors qu'on sait que ses avocats ont attaqué, n'est-ce pas, les jugements?
C'est le droit qui va s'appliquer.
Là, vous ne voyez pas des pressions politiques.
Non, c'est pas une pression politique.
Oui, parce que les avocats ont attaqué les jugements.
Oui.
Mais les autorités politiques disent non, en dépit de cet appel, nous allons arrêter la personne.
Fort du jugement donné, ce n'est pas une déclaration politique du ministre. C'est une référence à un jugement donné.
Merci.
Dont la conséquence est l'arrestation de M. Moïse Katumbi s'il met le pied dans ces circonstances.
Merci. Maître Rufin Louko, il y a une question qui vous est adressée, elle vient de Kinshasa.
Georges Bimpa, j'appelle de Kinshasa dans la commune de Bandalungwa. Ce qui se passe actuellement à Lubumbashi, c'est une honte pour le pays en général et particulièrement pour la justice congolaise. Ça illustre à suffisance les failles au principe de la séparation des pouvoirs qui est fondamentale pour la démocratie et l'état des droits. Alors que notre constitution, dans ses articles 150 et 151, est claire à ce sujet. La vérité éclate au grand jour. La cour d'appel de Lubumbashi cherche à cacher ce qui est connu. Cet acharnement contre les personnels du tribunal de paix de Kamalondo n'échange à rien au contenu de cette lettre de Madame Ramazan. Si la Cour met en cause son authenticité, elle n'a qu'à apporter les preuves. Et pour cela, il faut une enquête indépendante, car la Cour ne peut être juge et partie, ni il ne peut se prévaloir de sa propre turpitude.
Maître Rufin Louko.
Bon, je merci cet auditeur. Je l'ai même dit, que lui dit que c'est une honte. J'ai dit, moi, je considère que ces faits sont faux. Point. Parce que si ces faits sont vrais, ces faits sont très graves. Bon, l'arsenal législatif de notre pays prévoit que lorsqu'une cour d'appel est mise en cause à ce point-là, elle se trouve incapable de poser des actes dans la même affaire, on doit renvoyer la juridiction. On doit ramener la cause à Mbujimayi, à Kinshasa, à Kisangani, à Goma, Bukavu, Bamatadi, Bandaka, pour qu'une autre juridiction examine la suite. Alors, parce que j'ai promis à notre population, avant de continuer avec la réponse, je donne ce que, parce que cette question n'est prévue par aucun texte du pays. Quel est le sort de la procédure suivante lorsque les dossiers physiques venaient à disparaître.
Il n'y a pas de jurisprudence.
La jurisprudence, les jurisprudences maintenant qui ont... Et là, j'ai la cour d'appel d'Elisabethville en 1952. Je l'ai consacré, cette solution qui a déjà été posée, je l'ai consacré dans mon ouvrage qui est sorti en 2006, à la page 194. Voici, je vais lire donc. Déjà, la cour d'appel d'Elisabethville, celle-là même, l'actuelle, aujourd'hui, Lubumbashi, avait connu ces cas à 52. Et voici ce qu'elle a consacré comme solution. En cas d'égarement des pièces et du jugement d'une affaire répressive, le juge d'appel annule la procédure antérieure, lorsqu'il y a appel, et renvoie le ministère public à ses pouvoirs comme il appartiendra. Ça, c'est la solution de la cour d'appel de Lubumbashi. La cour d'appel de Léopoldville, Kinshasa, aujourd'hui, a eu à connaître cette affaire. Nous sommes en 1962. 52, Elisabethville. 62, Léopoldville. Voici la solution, page 93. Lorsque par suite de destruction, disparition ou perte d'un dossier judiciaire pénal, la juridiction d'appel se trouve dans l'impossibilité de vérifier la régularité de la procédure suivie au premier degré, elle doit donc annuler le jugement déféré sans évocation parce qu'il n'y a plus de dossier. Il appartiendra en ce sens au ministère public, s'il l'estime opportun, de refaire l'instruction de la cause pour refixer l'affaire devant le premier juge.
Alors, maître, comment vous entrevoyez la suite de cette affaire? Donc, la cour, comme on venait de dire là, la cour de cassation peut aller jusqu'à annuler, n'est-ce pas?
Maintenant qu'il n'y a plus de dossier, même bon, tu t'imagines les drames pour la République? Il n'y a plus de dossier. Alors que le juge d'appel est saisi, et il y a même la cassation. Et le drame, c'est que même le juge de cassation qui a pris acte, comme on dit, donné acte du renvoi des juridictions, on l'a appris qu'il a été également sanctionné à la Cour suprême. Donc, vous imaginez les mois que cette affaire crée pour nous, opérateurs de la justice. On s'est dit, donc Moïse Katumbi, c'est un extraterrestre dans ce pays. Et tous ceux qui sont dans la machine, comment lui? Parce que nous devons avoir la sûreté, nous, que toute personne au Congo, premier ministre, général, caporal, huissier, s'il a violé la loi, nous soyons rassurés que la justice se paie la tête.
Et en conclusion.
À conclusion, maintenant s'il est vrai que le dossier a disparu, c'est que le juge d'appel, à l'absence de tout dossier judiciaire, doit annuler les jugements du premier degré. C'est ça la conséquence pour remettre les choses dans leur précis état. Vous ne pouvez pas confirmer un jugement ou exécuter un jugement dans les... Et puis tu t'imagines, nous avons toujours appris, nous, que lorsque un condamné s'évade, c'est l'échec de la justice.
Merci.
Et lorsque un dossier judiciaire disparaît, c'est l'ébranlement de toute autorité
merci, maître,
par rapport à la
maître Kapiamba, et comment vous entrevoyez la suite de cette affaire? Est-ce que la cour de cassation peut aller jusqu'à annuler ce jugement et acquitter M. Moïse Katumbi?
Non, ce n'est même pas le juge de cassation, c'est le juge d'appel qui va constater qu'il est dans l'impossibilité d'examiner la manière dont la procédure a été menée au premier degré, faute de dossier, et il va seulement annuler l'ensemble de la procédure.
En conclusion,
je voudrais dire ceci. Il ne faudrait pas qu'on passe à côté de la vérité. La vérité, c'est que le deuxième procès a été mené contre Moïse Katumbi parce que les supposés recrutements de mercenaires a échoué. Et malgré ça, je termine, si vous me permettez, vous avez posé la question pourquoi les ministres en parlent trop. Est-ce qu'il revient au ministre de la Justice d'ordonner l'arrestation, l'exécution d'une décision judiciaire?
Merci.
Mandat de prise de cour est signé par le chef de juridiction, exécuté par le parquet.
Merci.
Donc il y a eu beaucoup
d'interférences
avec toutes les déclarations.
Votre conclusion?
Ma conclusion se porte sur le rôle de création de droit de la jurisprudence. Deux cas ne suffisent pas à créer le droit, parce qu'il s'agit de l'intime conviction de ces juges-là, et le nombre n'est pas suffisant.
Le nombre,
depuis ces deux cas, depuis 52, Et donc, c'est pas suffisant pour créer la loi.
Merci.
Il faut que le juge actuel se prononce en fonction de son intime conviction.
Merci, c'est la fin de cette émission. Merci à Hippolyte Kapanga qui était la technique. Et merci à toute l'équipe Dialogue en Congolais, Kéline Couté, Berry Franklin Luchaka, sous la supervision de Pélé Kipela Mondo, à la présentation Guy Maté. Merci et bon suivi de programme sur Radio Capi.